Ce message vous est proposé gratuitement et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Donc le titre du message pour aujourd'hui, je l'ai appelé « Objectif bien-être ». C'est un message que je crois qu'il concerne tous les gens qui sont autour de nous, et spécialement la société qui nous entoure et la société dans laquelle nous vivons. Nous avons développé un type de société basé sur l'homme, sur le moi, sur les besoins, et nous sommes ici privilégiés, je parle de notre pays, bien sûr, tout le monde ne vit pas dans la richesse et dans l'abondance, il y a aussi des gens qui ont des difficultés, mais nous vivons dans un pays relativement riche, et donc les gens ayant leurs besoins primordiaux pourvus, la nourriture et le vêtement, l'apôtre Paul disait, si nous avons la nourriture, le vêtement, ça suffit. Et donc si on a le minimum, après on s'occupe encore d'autres choses. Et je crois qu'à ce moment-là, quand on a le minimum, on peut commencer davantage à s'occuper de tout le reste qui nous manque ou qu'on croit qu'il nous manque. Parce que des fois, c'est aussi ça. Mais les gens qui sont dans une situation où ils n'ont pas à manger, où ils n'ont pas le minimum vital, eux ne s'occupent pas de ce genre de questions. Mais l'être humain a ce genre de questions, de bien-être. Il veut se sentir bien. Et moi, je crois que nous pouvons présenter l'Évangile de plusieurs façons. Il y a une présentation de l'Évangile qui est la religion où l'homme est au centre de tout. C'est moi qui suis au centre. Alors on prêche une partie de l'Évangile. Viens Jésus, tout ira bien, tu seras riche, tu seras en bonne santé, tu seras jeune et beau, et tout va bien aller pour toi. Et ce qui n'est pas faux, vous êtes d'accord avec moi, il y a beaucoup de promesses de la parole de Dieu qui sont pour ça. Mais le problème, c'est que tout peut être centré que sur la personne et sur ce que ça va m'apporter. Et à l'inverse, on peut avoir une présentation de l'Évangile. Tu dois maintenant te soumettre à Dieu, tu dois renoncer à tout, tu dois souffrir pour moi, etc. Et donc là, c'est centré non pas cette fois-ci sur Dieu, mais sur une certaine conception de Dieu. Et il y a aussi un peu de vrai là-dedans. Parce que Dieu, il est saint, il est une personne d'autorité, il peut avoir ses exigences aussi, des exigences pour notre bien, mais qu'on ne comprend pas toujours, mais on a besoin de réaliser quand même. Donc, dans les deux aspects, on peut avoir des choses qui sont tout à fait vraies et qu'on pourrait trouver dans la Bible. Mais je crois que nous avons fondamentalement besoin, si on veut être équilibré, si on veut vraiment, comme on dit un terme qu'on utilise, être bien dans sa peau, il faut qu'on ait cette bonne relation à la fois avec Dieu, savoir qu'on est bien avec soi-même et qu'on est bien avec les autres aussi. C'est une relation dans tous les sens. Et moi, l'autre jour, j'avais sur le pare-brise de ma voiture, c'est une publicité, je le montre rapidement. Je pense que de toute façon, il n'y a pas de marque de produit, de quoi que ce soit dessus. Donc, il y avait une invitation à aller dans un centre de soins de toutes sortes. Et donc là, c'est pour qu'on s'occupe de votre personne, pour que ça aille bien. Et c'est pour ça que j'ai pensé à ce terme du bien-être qui revient souvent. Les gens ont cette revendication maintenant du bien-être, s'occuper de soi. Et vous savez, ce n'est pas, non seulement ce n'est pas interdit, mais que c'est même très utile. On le sait que quand Jésus a dit il faut aimer son prochain comme soi-même, si vous êtes mal avec vous-même, vous n'irez pas loin dans votre communication. Tout ce que vous allez communiquer, c'est que ça ne va pas en vous. Quand on se sent mal, on le fait sentir aux autres. On communique quelque chose de ce qu'il y a en nous. Il y a une communication au niveau de l'esprit qui nous habite. Vous le croyez ça? De toute façon, c'est une réalité. Quand Jésus n'a pas été accueilli dans un village, on se rappelle que Jean et Jacques voulaient commander au ciel que le feu tombe sur ces gens qui ne voulaient pas accueillir Jésus. Et il leur a dit, vous ne savez pas quel esprit vous anime. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous pousse à faire ça. Donc, selon qu'on n'est pas bien dans sa peau, on communique quelque chose qui n'est pas de Dieu et qui ne bénit pas les autres. On ne communique pas vraiment des choses qui sont utiles. Donc, nous savons que nous avons tout pleinement en Christ parce que la parole nous le dit. Alors, est-ce que nous devons, je ne suis pas contre que vous fassiez du bien, mais est-ce que nous devons aussi, comme le monde, comme tout le monde, ou beaucoup de gens, courir dans tous ces centres pour se faire soigner, pour se faire relooker, pour avoir la forme, aller dans le fitness et tout le reste? Je crois que nous avons besoin de comprendre que beaucoup de ces personnes vont courir après des choses, vont dépenser beaucoup d'argent pour finalement ne pas satisfaire réellement ce qui leur manque au fond d'eux. Et alors, je vais vous lire la liste de tout ce qu'on vous promet maintenant dans cette invitation à aller dans ce centre. Alors, il y a toutes sortes de mots qui sont là sur cette petite fiche d'invitation. Libérer, douceur, soulager, tonifier, manuel, énergie, écrit en tout grand, bien-être, plaisir, accompagner en tout grand, rééquilibrer, vivifier, soulager encore, je pense qu'il y a besoin de beaucoup de soulagement, et renforcer, naturel est écrit en grand aussi, parce que ça c'est très bien tout ce qui est naturel, et relaxation. Alors avec ça, vous avez un programme complet pour vraiment vous sentir mieux. Et moi, je me suis amusé, entre guillemets, mais vraiment parce qu'on peut s'amuser avec la parole de Dieu. À voir que toutes ces choses, et bien mieux encore, en Jésus, nous avons tout pleinement en lui. Vous êtes d'accord? Alors moi, je voudrais que les chrétiens, ils soient vraiment libérés, mais alors de tout complexe, pour qu'ils puissent dire, quoi, tu vas dépenser des sous pour aller à tel et tel endroit pour que tu sois libéré, que tu... ceci, cela. Mais moi, j'ai tout pleinement en Jésus et je suis bien dans ma peau et tout va bien, merci. Rappelons-nous que celui que le Fils a franchi est réellement libre. Comment d'autres personnes, et là je les accuse, je ne cite pas de nom alors je peux y aller, je les accuse de mensonges parce que comment peuvent-ils promettre à des personnes qu'ils vont être libérés de quoi que ce soit, alors que la Bible nous dit, c'est seulement celui que le Fils a franchi qui est réellement libre. Donc la liberté qu'on promet n'est qu'une forme de liberté. La vraie liberté, c'est que nous ne sommes plus sous l'esprit du péché, la loi de l'esprit du péché et de la mort. Ça, c'est la vraie liberté. Elle ne peut venir que par le Saint-Esprit et que par l'aide de Jésus. Celui que le Fils a franchi sera réellement libre. Pour ceux qui veulent noter les références, c'est dans Jean 6, 36. Ça, c'est par rapport, j'ai dit, notre position d'équilibre avec Dieu, avec nous-mêmes, avec les autres. Dieu, au travers de Jésus son Fils, nous apporte la liberté. En Jésus, vous êtes libre. Dites-le à votre voisin, en Jésus, tu es libre. Tu peux connaître la vraie liberté. La vraie liberté, libre de pression, libre de même d'oppression au niveau de tes pensées, de toujours se sentir obligé de faire des choses parce que les autres pensent qu'on doit les faire, de vraiment être libre. Jésus était quelqu'un qui était parfaitement libre. Il pouvait faire exactement le contraire de ce que les autres attendaient de lui, sans avoir un sentiment de culpabilité, sans avoir mauvaise conscience, sans être stressé ou tendu à cause de ça. Nous devons pouvoir marcher et dire, je vais faire ça, que ça te plaise ou non. Je ne le fais pas exprès pour te provoquer, mais je le fais simplement parce que c'est en accord avec ma conscience. Et je ne vais pas faire semblant de faire quelque chose simplement pour que tu sois content. Ça, c'est la vraie liberté dans laquelle Jésus marchait. Il y a un avertissement, je dis par rapport à nous, par rapport à la liberté. Ne faites pas de la liberté un prétexte pour marcher selon la chair. c'est dans Galates 5:13. Ça veut dire, je ne vais pas profiter de cette liberté que j'ai en Jésus-Christ pour faire exprès des choses, même dans le sens de provocation. Mais je vais marcher d'une telle façon que moi j'ai la liberté, mais en même temps je ne vais pas en profiter ou je ne vais pas faire semblant non plus. On peut se rappeler, ça c'est pas dans la Bible, mais c'est toujours bien d'y penser. Ma liberté, elle s'arrête là où commence celle des autres. Et donc, il y a aussi le fait que je ne vis pas seul sur une île déserte et je ne fais pas non plus n'importe quoi en disant tant pis pour les autres. Il faut que je respecte aussi le fait que d'autres personnes puissent avoir d'autres opinions et leur propre espace où ils peuvent vivre en liberté. La douceur était située en numéro 2. Jésus disait, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Dans ce monde dans lequel on vit, nous on vit dans un monde où nous sommes très occupés. Nous avons beaucoup de travail, beaucoup d'activités. Et il y a beaucoup de fatigue aussi, pas seulement au niveau physique, aussi au niveau intellectuel, mais aussi au niveau de l'âme, de toutes nos émotions. On parle du stress et des conditions de travail qui peuvent être difficiles. Plus que jamais, nous avons besoin de tourner vers la parole de Dieu pour nos solutions. Jésus a dit, si vous êtes fatigués, chargés, venez à moi. Car je suis doux et humble de cœur. La douceur, ce n'est pas seulement dans des soins extérieurs parce qu'on vous passe une pommade, que ce soit au niveau de votre corps ou au niveau de votre âme. Il y a des gens qui sont toujours là pour passer de la pommade. Des fois, ce n'est pas le moment de passer de la pommade, mais Jésus, lui, est doux et humble de cœur et il nous donne du repos. Vous allez trouver du repos. La parole de Dieu nous encourage aussi par rapport aux autres personnes. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, disait l'apôtre Paul. Et c'était dans Philippiens qu'il a dit ça, il a exhorté les Philippiens, que votre douceur, que vous soyez connus pour votre douceur, pas pour votre dureté, pas pour votre agressivité. Celui-là, dès qu'on lui dit quelque chose, comme on dit des fois, il monte sur ses grands chevaux ou il est prompt à réagir. Mais que votre douceur, est-ce que vous êtes connu pour votre douceur? Ou si vous n'êtes pas encore très doux, au moins de garder votre sang-froid ou de rester calme. Rappelez-vous que dans le calme et la confiance sont votre force. Donc nous avons des exhortations pour ça. Même lorsque des personnes peuvent être agressives, quelqu'un dit une fois, on reconnaît un homme non pas à ses actions mais à ses réactions. C'est là qu'on voit la nature de quelqu'un. C'est quand on essaye de l'asticoter, de voir comment il réagit. Est-ce qu'il sait être maître de soi? Est-ce qu'il comprend qu'il faut aller au-delà de simplement de la première réaction qu'on pourrait avoir? Et l'apôtre Paul écrivait aussi, il disait, redressez avec douceur les adversaires. Il parlait pas simplement soyez doux avec ceux qui sont gentils avec vous, au cours de vous, vos frères et sœurs, même les adversaires, ceux qui sont connus comme étant des adversaires, veulent s'opposer à vous. Il est dit, redressez avec douceur les adversaires. Et dans un des proverbes, il est dit que une réponse douce calme la fureur. Pour qu'une dispute continue et sans venime, il faut quoi? Il faut qu'il y ait les deux parties qui se répondent tout le temps. Mais remarquez que s'il y en a un qui s'arrête ou qui dit une réponse douce, l'autre n'a plus de quoi alimenter le feu de la dispute. C'est comme si à un moment donné, justement, le feu s'éteint parce qu'il n'y a plus de, on n'apporte plus de nouvelles bûches. Donc des fois, ça peut être bon de se taire, tout simplement, ou de donner une réponse douce qui, selon la Bible, calme la fureur. Alors, on vous promet un soulagement. Soulagement, c'est quand on souffre, tout le monde a connu des moments de souffrance, peut-être quelqu'un même qui m'écoute est dans une situation de souffrance et on aimerait un soulagement. Soulager, on pense soulager aussi d'un fardeau, d'un poids. Jésus est celui qui nous soulage. Il a porté. J'aimerais qu'on prenne ensemble successivement les trois passages qui sont en parallèle. Ésaïe 53, au verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est lui qui nous soulage de nos souffrances. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Le passage parallèle qui est dans Matthieu 8, verset 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Il nous soulage. Et 1 Pierre 2, 24, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Et ça me rappelle toujours cette petite histoire. Quand on disait que autrefois il y avait un homme au bord de la route avec un grand sac sur le dos, et puis une petite charrette est passée par là, et puis donc il a dit mais montez derrière, et donc l'homme monte et puis il continue sa route avec sa petite charrette. Et au bout d'un moment il se retourne et il voit que l'homme, il était assis sur la charrette mais il avait encore son sac sur le dos. Et il a dit mais pourquoi vous mettez pas votre sac à côté de vous? Il dit, oh non, je ne vais pas abuser, c'est déjà bien gentil de vous de m'emmener. Mais nous comprenons que c'est des fois ridicule, on ne comprend pas assez combien on pourrait se décharger sur Jésus. Donc on pense, mais Jésus a porté quelque chose pour nous, et en même temps on continue de croire qu'il y a des choses que nous devons porter. C'est inutile, c'est totalement inutile. Il faut que nous réalisions, le soulagement vient de lui. Il a porté lui-même. Il l'a porté lui-même à votre place. C'est inutile de le porter. L'apôtre Paul écrivait aussi aux Philippiens et disait « S'il y a quelque soulagement dans l'amour, le soulagement vient dans l'amour. » Et il parlait de son état d'âme et disait « Voilà, j'ai des besoins aussi. » Il parlait de ses besoins aux Philippiens. Et il disait « Parce que ça le concernait, la situation de l'Église. Vous savez que des fois, il souffrait parce qu'il entendait qu'il avait travaillé à tel endroit, pendant des mois, pendant des longues périodes. Il avait édifié une Église. Cette Église grandissait. Ensuite, lui partait pour un voyage, et après, il entendait des nouvelles. Il y a des gens qui sont arrivés, ils ont semé la confusion, il y a du trouble, etc. Et donc, il était souvent attristé de ça. C'était un homme qui avait beaucoup souffert au niveau de son âme, à cause de tout ce qui lui est arrivé. Et donc, ici, en Philippiens 2, il dit, « Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. » C'est-à-dire, ne vous détruisez pas les uns les autres. Ne détruisez pas l'œuvre de Dieu. Mais recherchez vraiment cette unité au niveau de l'esprit, afin que pour moi, ça m'apporte vraiment ce soulagement dans l'amour et que je sois, dans une autre partie de la Bible, il écrit, afin que je sois tranquillisé, que mon esprit soit tranquillisé de ce que j'entends de vous. Nous avons tous besoin d'expérimenter ce soulagement. On ne peut pas vivre constamment avec un poids qui nous écrase, avec un fardeau. Et donc, ça va aussi dans le sens de numéro 4, qui était de tonifier. Alors, est-ce qu'on est tonifié? On a besoin de force, on a besoin de vitalité, on a besoin de tonus, et ça nous vient aussi de Dieu. Dans Hébreux 12, 12, c'est un message où nous utilisons énormément la parole de Dieu, et vous savez, c'est cette parole de Dieu qui est esprit et vie, et qui va justement vous apporter ce tonus et cette force dont vous avez besoin. Ce n'est pas moi qui peux vous l'apporter. Moi, je pourrais vous mettre un petit peu de pommade dans le dos, comme on dit, ne t'en fais pas, ça ira mieux. Mais Dieu, lui, peut faire beaucoup plus. Il peut vous apporter vraiment les paroles dont vous avez besoin. Dans Hébreux 12:12, il y a cette façon d'avoir ce tonus de la part de Dieu. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Et de la même façon que le psalmiste, il parlait à son âme, il disait, mon âme, bénis l'Éternel. Vous aussi, parlez-vous à vous-même, parlez à votre corps, si vous avez les mains qui sont fatiguées, fortifiez vos mains languissantes, si vos genoux sont affaiblis, parlez à vos genoux, dites-leur que vos genoux doivent se fortifier. Suivez avec vos pieds des voies droites, si vous avez un pied qui est un peu de travers, dites à votre pied d'aller dans des voies droites. Et si des fois vous avez du mal à marcher d'une façon ou d'une autre, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Vous savez, on utilise très souvent, dans certains milieux chrétiens, j'ai très souvent entendu, ils connaissent très bien le verset qui dit que si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. C'est écrit comme ça. Mais pour eux, c'est un peu comme, c'est normal, je vieillis, tout diminue. Mais non, au contraire, c'est dans le naturel, bien sûr que notre corps connaît la mortalité. Mais si notre être intérieur se renouvelle de jour en jour, s'il y a une action par le Saint-Esprit, nous n'avons pas besoin de décliner à tous égards. Nous pouvons au contraire nous accrocher à Dieu qui est la source de la vie pour pouvoir recevoir de lui le tonus dont nous avons besoin. Là, il est écrit manuel. Manuel. Il y a un contact manuel. Bon, c'est un centre où ils font des massages, ils font des pratiques de relaxation de toutes sortes. Mais j'ai réfléchi à ça et je me suis dit, nous vivons dans un monde de gens qui recherchent avant tout l'individualisme. Il y a de moins en moins de contact avec les gens. On vit d'ailleurs aussi beaucoup dans un monde virtuel. Il y a des jeunes ou des enfants, ils n'ont pratiquement pas besoin, je ne dis rien contre certains jeux qu'on peut faire sur ordinateur ou tout simplement de communiquer par Internet et autres, mais certains sont arrivés maintenant à vivre vraiment dans une bulle de monde virtuel. Ils n'ont même plus de contact réel avec d'autres. Chez certains, c'est devenu une vraie maladie. C'est devenu grave. Et donc, parce que notre société va dans ce sens. On ne se retrouve plus. On a nos loisirs sous forme de médias, de télévision. Et donc, il n'y a plus le contact. Mais l'homme a besoin de contact. On a besoin des fois de pouvoir serrer une bonne poignée de main ou d'avoir une tape dans le dos ou une accolade ou de s'embrasser par un baiser. On a besoin de ça. Dieu nous a créés comme ça pour qu'il y ait des contacts. Et voyez que dans la Bible, comment les gens se précipitaient sur Jésus. Ils voulaient le toucher. Ils voulaient que leurs enfants soient touchés, soient bénis, l'imposition des mains. Parce qu'il comprenait, il y a quelque chose de la vie qui se communique comme ça. Si quelqu'un s'éloigne de vous et vous dites, il se crée un fossé, il y a un froid. Mais au contraire, nous avons besoin de vivre de vrais contacts, des saints contacts. Or, dans la société actuellement, on est très méfiant. Si quelqu'un s'approche, qu'est-ce qu'il me veut celui-là ? Si quelqu'un s'approche d'une jeune fille ou d'une jeune femme, elle pense déjà, il est en train de me draguer. Mais c'est parce que nous sommes dans une société qui va dans ce sens, pour la plupart. Alors on devient méfiant et on ne veut plus avoir de contact. Et pourtant, on a été fait pour ça. Alors, à nouveau, nous avons l'image de Jésus, qui lui, il n'avait pas peur d'un contact. Il pouvait même toucher les lépreux, ça ne lui faisait pas peur. Il pouvait toucher une prostituée Et ils n'avaient pas peur qu'on dise oh, « il s'est approché d'une femme qui a une mauvaise vie, etc. » Et au contraire, lui, parce qu'il n'était pas quelqu'un qui avait peur, mais qui savait qu'il pouvait bénir par son contact et par sa présence. Et vous aussi, vous devez arriver à ce stade où vous n'avez pas tout le temps peur de l'influence négative que d'autres pourraient avoir, mais être tellement rempli de Dieu que c'est vous qui allez être un sujet d'influence. Et que si vous arrivez quelque part, et si vous serrez la main à quelqu'un, vous ne dites pas « j'espère qu'il n'est pas rempli de démons et qu'il ne va pas y avoir un transfert d'esprit », mais vous dites au contraire « quand moi je serre la main de quelqu'un, la puissance du Saint-Esprit agit ». Et c'est l'Esprit de Dieu et la force de Dieu qui pénètre dans l'autre personne. C'est simplement une question de mentalité. Est-ce que vous êtes rempli de Dieu ou est-ce que vous êtes rempli de crainte? Moi, je préfère être rempli de Dieu et de savoir que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est une réalité. Et on a besoin de se le dire encore et encore. Alors, en tout grand, énergie, sur ma petite fiche, je vous la montre encore rapidement, énergie. Donc, énergie. Nous avons de l'énergie. Et je pensais comme Samson, qui était tellement fort à cause de Dieu, et les gens doivent vous poser la question. Mais d'où vient ton énergie? Le soir, tu es encore en pleine forme, après ta journée de travail. Plusieurs sourient, font des grimaces, ils disent... Nous avons besoin justement de se dire, nous pouvons avoir nos forces renouvelées en Dieu. N'est-ce pas vrai? D'où vient ta force, Samson? Est-ce que vous êtes moins que Samson? Vous êtes un chrétien rempli du Saint-Esprit? Vous avez l'onction de Dieu en vous? Les autres voulaient savoir d'où vient ta force. Que les autres se demandent d'où lui vient cette énergie. Il arrive à faire tellement de choses, c'en est incroyable. Jérémie 17, il est dit « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. » Notre énergie ne vient pas de nous. Pas parce qu'on est né sous une bonne étoile ou parce que c'est notre nature est comme ça. Notre énergie vient de Dieu. Rappelez-vous du psaume 92, le verset 11. « Tu me donnes la force du buffle et je suis arrosé d'une huile fraîche. » C'est un de mes versets favoris parce que nous avons besoin de ça. De nous voir fort, de nous voir comme quelqu'un qui est constamment dans les nouvelles choses que Dieu fait. Pas dans une vieille huile rancie, mais dans une huile fraîche. J'avais entendu une fois un message, il y a des années de ça, sur les mouches mortes qui font rancir et fermenter l'huile du parfumeur. Mais donc, s'il y a plein de mouches mortes et que l'huile, elle est là depuis longtemps, c'est sûr que c'est plus tellement formidable. Mais pour nous, c'est une huile fraîche qui vient sur nous. Et acte 1:8, on parle d'énergie. Le Saint-Esprit vient sur vous. Vous recevez une puissance. Et rappelez-vous que la puissance du Saint-Esprit est décrite par le mot dynamos en grec. Dynamos qui nous donne la dynamite. C'est la même racine du mot. Dynamite, s'il y a de la force, ça explose, ça peut faire des ravages. Nous, on veut faire des ravages dans le bon sens du terme. Et donc, voilà cette énergie. Toutes ces choses nous conduisent, et là, on est à notre sujet, le bien-être. Expérimenter le bien-être. D'où vient-il? Ce bien-être vient de la vie en abondance. Cette vie de Dieu, de réaliser que j'ai tout pleinement en lui. Bien sûr, des fois, j'ai des désirs, j'aimerais ceci ou cela, mais en réalité, si je fixe mes regards sur Jésus, j'arrive de nouveau à trouver ma satisfaction en lui. Le bien-être dépend en fait de tout le reste, de tout ce que je viens de dire et de ce qu'on va encore partager ensemble. Nous ne sommes pas appelés simplement à survivre, mais à vivre une vie en abondance. La vie en abondance, c'est je me connais moi-même, je connais mes forces, je connais mes faiblesses, je connais mes désirs, je connais aussi finalement ce qui me fait du bien, alors je ne passe pas le reste de ma vie à essayer de faire des choses que les autres veulent que je fasse. Je commence à être en accord et en harmonie avec moi-même. Je suis impressionné de voir que ça prend si longtemps pour grandir, pour apprendre à se connaître, et finalement, on met des années pour arriver à une certaine sérénité, une paix intérieure. Peut-être on pourrait apprendre plus vite. mais on met beaucoup de temps. L'être humain met beaucoup de temps pour apprendre. Vous avez remarqué ça? Et on, des fois, on dit toute la vie, c'est un apprentissage. N'est-ce pas vrai? Et ici, il est écrit aussi plaisir, bien-être et plaisir. Alors, là aussi, on est en plein dans le sujet de notre société. Cours après le plaisir. C'est devenu un mot tellement important. Mais le plaisir n'est pas une invention du diable. Pour remettre les choses à leur juste place. C'est Dieu qui l'a inventé. Le fait de pouvoir être heureux de quelque chose, de pouvoir se réjouir ou de jouir de la vie. Il est dit « jouis de la vie » dans la Bible. Et donc, notre civilisation est une civilisation actuellement. Les gens ne courent qu'après les loisirs et le plaisir. Il me semble que là, il y a un détournement. Parce que c'est certainement une composante de notre vie, et même importante, de pouvoir être heureux et de jouir de certaines choses. Mais si c'est le seul objectif, alors on peut dire que c'est déjà perverti. Si c'est le seul objectif, il y a quelque chose qui ne va plus. Vous imaginez des gens, parce que j'associe loisir et plaisir, des gens, leur seul objectif, ce serait d'avoir que des loisirs. Non, la Bible dit aussi le précieux fruit d'un homme, c'est son activité. L'homme peut être heureux dans son activité. Ça ne veut pas dire seulement en train de jouer, mais on peut avoir beaucoup de plaisir à aider quelqu'un. Vous avez déjà une fois été heureux d'avoir pu rendre service et de voir que ce que vous avez fait a vraiment été une bénédiction. Il y a une profonde joie dans cela. Ce n'est pas seulement de ce qu'on me donne, ou de ce que je mange, de ce que je goûte. C'est aussi de voir qu'il y a toutes sortes de sources de joie et de plaisir. Et donc, mais rappelons-nous, même si certains l'ont perverti, à l'origine, cela vient de Dieu, et c'est une bonne chose. Et on ne veut pas que d'autres puissent faire le hold-up et dire que vous les chrétiens vous avez seulement une vie terne, triste, austère, et nous on a la joie et la gaieté. Rien n'est plus éloigné de la réalité. De la plupart du temps, certaines choses qu'on appelle de façon un peu religieuse les plaisirs du monde, certaines choses laissent un goût très amer. D'abord, on peut profiter du péché, et tout de suite après, ça laisse un goût amer. Et le salaire du péché vient après le péché. Une fois qu'on a consommé, alors il faut payer. Et donc là, c'est totalement différent de ce que le proverbe dit de la part de Dieu. Il dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Quand quelque chose vient de Dieu, alors on peut en jouir, et ça reste, ça demeure, et ce n'est pas une source de chagrin par la suite. Proverbe 10, 22, pour ceux qui veulent noter les références. Donc, Dieu est à l'origine, et je trouve que c'est même admirable, parce que je veux vous le lire, c'est un beau passage de la Bible aussi, dans Ésaïe 62, et c'est une promesse pour chacun. Bien sûr, à l'origine, c'était le salut de Jérusalem, mais il nous est dit de Jérusalem, au verset 2, « On t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. » Ça vous fait penser à rien, ceux qui connaissent un petit peu la Bible ? Un nom nouveau. Dans l'Apocalypse, chacun aura un caillou de la part de Dieu et il y aura votre nouveau nom qui sera écrit dessus. Et c'est Dieu qui aura choisi ce nom. Certains d'entre vous avez reçu votre nom de vos parents. Certains, des fois, le changent en cours de route parce qu'il ne leur convient pas, quand ils ont plusieurs prénoms, des choses comme ça. Mais ici, il nous est dit, on t'appellera d'un nouveau nom. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle. Ça, c'est la façon dont Dieu voit Jérusalem, sa ville sainte, la Jérusalem d'en haut. On t'appellera mon plaisir en elle, et on appellera ta terre épouse. car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. L'Éternel, moi je crois qu'on peut le prendre chacun individuellement et personnellement. Dieu met son plaisir en toi. Dites-le à votre voisin. Dieu met son plaisir en toi. Réalisez ça. Le plaisir, vous savez, c'est ce dont on est en train de parler, que tout le monde court après. Dieu a aussi du plaisir. Un plaisir, qu'est-ce qui me... Des fois on dit à quelqu'un, si vous voulez faire un cadeau, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Vous savez ce qui fait plaisir à Dieu? C'est toi. C'est moi. C'est vous. Vous êtes la source de plaisir de Dieu. L'être humain, mais pas seulement le genre humain globalement. Vous, chacun de vous. Il vous observe comme son cher enfant. Il vous regarde et il veut faire quelque chose pour vous. Pour vous faire plaisir. Parce que vous-même, vous lui procurez du plaisir. Invention de Dieu, création de Dieu, perversion du diable, mais ça ne lui appartient pas. Accompagner. Alors là, j'ai tout grand sur cette petite fiche publicitaire. Accompagner. Vous serez accompagné. On va vous aider à prendre soin de vous. En réalité, comme je l'ai dit, l'homme met très longtemps pour apprendre des choses. Et il y a des choses qu'on ne sait pas faire tout seul. En fait, c'est un signe de sagesse, pas d'intelligence, dire j'arrive tout seul, j'ai besoin de personne, mais c'est un signe d'intelligence de réaliser, il y a des choses que je n'arrive pas tout seul, j'ai besoin qu'on m'aide. Ici, on a écrit accompagner, mais le mot à la mode, maintenant, c'est coaching. Tout le monde veut avoir un coach. Et coach, c'est un terme anglais pour dire que ça peut être un entraîneur d'une équipe, etc. Et ensuite, c'est devenu maintenant coach, ça veut dire... Ça peut être votre coach personnel, quelqu'un qui vous apprend comment faire certaines choses, comment prendre soin de vous. Vous pouvez avoir un coach pour qu'il vous dise quoi manger, si vous voulez faire un régime, ou un coach pour vous préparer pour une épreuve sportive, votre entraîneur personnel. Mais moi je me suis dit, nous avons quelqu'un qui nous accompagne. Jésus qui a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ne pensez jamais et ne dites jamais « je suis tout seul ». C'est vraiment faire affront à Jésus. C'est comme s'il n'existait pas. Vous avez déjà remarqué, vous arrivez dans un endroit, beaucoup de personnes sont attendues, mais il n'y a pas grand monde encore. Et quelqu'un vient et dit « ah, il n'y a personne ». Comme si vous n'étiez personne et que quelques personnes qui sont là déjà, d'être personne, on dit « il n'y a personne », ça veut dire « on veut dire il n'y a pas grand monde ». Mais on dit il n'y a personne, vous pourriez le prendre mal, mais bon, vous ne le laissez pas impressionner pour si peu. Mais imaginez à la place de Jésus, vous êtes en train de dire tout le temps, je suis tout seul, il n'y a personne qui m'aide, il n'y a personne qui me comprend, il n'y a personne qui comprend ce que je suis en train de traverser. Si, il y a quelqu'un, c'est une personne, c'est un homme, il est réel, il est vivant. Il a tout traversé, ce que vous ne pouvez même pas encore imaginer, et il vous comprend parfaitement, et il est là pour être votre coach personnel, pour vous accompagner. Et de la même façon qu'il a dit, je suis avec vous, on peut dire oui, il a dit je suis avec vous, mais après il est parti au ciel. Oui, mais il a dit parce que c'est avantageux pour vous. Je suis avec vous, mais par la présence de mon Saint-Esprit. Il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit, ce sera un autre coach. Ce sera un autre consolateur, un autre accompagnateur. Et on voit dans l'Église, dans la première Église, dans Actes 9, 31, et j'aime beaucoup ce passage, il nous est dit, toute l'Église était en paix. Ça c'est bon, une Église qui est en paix. L'Église n'est pas l'endroit où il faut faire la guerre. L'endroit où il y a la guerre, c'est dans le monde, là où le diable agit. Mais l'Église doit être en paix. Parce que Jésus, le prince de la paix, est le roi de l'Église. Dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, et s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. On peut dire par l'accompagnement du Saint-Esprit. Il était là avec l'Église. L'autre passage qu'on aurait pu prendre, c'est dans Marc 16. Le Seigneur travaillait avec eux. J'ai partagé... aux frères et sœurs ici, que nous avons fait exécuter quelques travaux ensemble dans notre maison, Mais on peut dire que, imaginez, vous avez réellement Dieu qui est avec vous comme co-ouvrier. Ça, déjà, ça renforce l'équipe. Hein. Quand on dit des fois, bon, on est des amateurs, on bricole, mais quand Dieu se met dans la partie et que lui travaille avec nous, tout de suite, vous avez une expertise. Là, vous avez un expert avec vous. Vous avez un professionnel qui connaît tout, qui sait tout. Ça, ça nous donne quand même un avantage énorme. Ensuite, on peut regarder aussi, il y a un mot qui dit ici « rééquilibrer ». Je vous ai déjà parlé de cet équilibre avec Dieu, avec nous-mêmes, avec les autres. Et la petite plaisanterie avec mon ami le pasteur Ken Taylor, lui il disait toujours de nous, il dit « nous sommes extrêmement équilibrés ». Et parce que en réalité, on se rend compte que beaucoup de gens, justement, leur vie n'est pas équilibrée. Ils mettent trop l'accent sur une chose, au détriment des autres. Justement, tout le monde a des besoins. Si vous êtes focalisé que sur vos besoins personnels, vous allez devenir une personne pénible pour l'entourage. Vous parlez que de vous, de moi, 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 mes besoins, et on ne s'occupe pas de moi. Non, on a besoin d'un équilibre là-dedans. Des personnes sont déséquilibrées parce que certaines veulent servir le Seigneur, mais sans intelligence. Alors ils usent leur vie, cette fois-ci, non pas à travailler avec Dieu, mais à travailler pour lui. Vous avez entendu le témoignage d'un homme qui avait fini aliéné mental, fou. Alors on parle des fois des fous de Dieu. Bon, on dit que c'est dans l'islam, mais non. Mais les chrétiens aussi, il y en a aussi des fois, parce qu'ils sont déséquilibrés. On n'a pas besoin de déséquilibrer dans l'Église. Au contraire, nous devons être les personnes les plus équilibrées qui soient. Et si je reprends le passage de tout à l'heure, dans Matthieu 11, 28, quand il est dit « Prenez mon joug, car je suis doux et humble de cœur », en grec c'est le mot « sugos », qui peut être traduit par « joug », mais qui peut aussi être traduit par « balance ». Si vous prenez ma balance, si vous laissez conduire par moi, dit Jésus, vous serez équilibré. Une balance, vous imaginez les balances anciennes où vous mettiez les poids d'un côté et la marchandise de l'autre, et quand vous aviez l'équilibre parfait, vous saviez quel était le poids. Jésus veut être dans notre vie, cet équilibre que sans lui nous n'avons pas. De 11, j'ai vivifié. Il est la vie. Comment peut-on être vivifié sans l'auteur de la vie, qui est Jésus? Comment peuvent-ils vouloir vous vivifier dans un endroit comme ça? Mais je comprends ce qu'ils font. Je ne veux pas critiquer de dire tout est mauvais. On peut se faire du bien au niveau de notre corps. Mais réellement, nous devons comprendre la source de la vie. Il est la vie. Il l'a dit, Jean 14, 6, on connaît peut-être bien ce verset, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et nous devons le réaliser. Jésus dit « Je suis la vie ». Si tu n'es pas dans ce contact étroit avec Jésus, qu'est-ce que ta vie? Tu es juste en train de survivre, mais peu à peu ça diminue. Comme une pile qui ne serait plus rechargée, une batterie, au bout d'un moment ça diminue, ça diminue. Il faut de nouveau se brancher et se recharger à la source de puissance qu'est Jésus. Sinon, au bout d'un moment, on sera complètement à plat. Et Jean 5, 6, verset 39. Jésus disait à ceux qui voulaient bien l'écouter, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. » Ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie, un point d'exclamation dans la Bible. Il dit c'est incroyable. Vous étudiez la Bible, vous voulez découvrir des choses concernant la vie éternelle et moi qui suis la vie, vous venez pas à moi. Mais vous voyez, vous pouvez avoir un comportement religieux, vous pouvez vous appeler chrétien, vous pouvez lire votre Bible. Mais si la Bible n'est qu'un livre mort et que ce n'est pas la parole vivante, Jésus lui-même, au bout d'un moment, la batterie est à plat. Vous n'êtes plus vivifié. Il n'y a plus rien. 2 Corinthiens 3, 6 dit c'est l'esprit qui vivifie. La lettre, elle est morte. C'est l'esprit qui vivifie. Ensuite, j'avais encore une fois soulagé, mais ça on l'a vu déjà. Mais ils l'ont mis deux fois. On avait renforcé, ça va un petit peu dans le même sens que tonifier. On ne va pas insister là-dessus. On voudrait juste vous laisser peut-être Néhémie 18. La joie du Seigneur sera votre force. Si vous avez besoin de vous renforcer de temps en temps, alors laissez la joie de Dieu se manifester en vous. Vous pouvez avoir, si vous voulez être joyeux, vous pouvez très bien, vous pouvez lire des blagues, vous pouvez regarder un film humoristique. Il y a beaucoup de façons d'avoir la joie. Mais nous parlons de la joie de l'Éternel, qui est quelque chose de différent, de plus profond et de plus solide. Parce que quand les épreuves de la vie viennent, vous oubliez la blague, vous dites bon, c'était bien marrant, mais maintenant je ne sais pas comment m'en sortir. Alors que la joie du Seigneur est votre force et vous aide à surmonter éventuellement ce qui est devant vous. Rappelez-vous, quand vous avez une éponge et que vous pressez l'éponge, c'est ce qui est dedans qui sort de l'éponge au moment où vous appuyez. C'est simple, hein? Quand vous êtes pressé par les épreuves de la vie, ce qui sort de vous, c'est ce que vous avez mis à l'intérieur. Si vous avez mis la parole de Dieu en vous, au moment où vous êtes sous pression, comme l'éponge, c'est la parole de Dieu qui sort, et c'est elle qui agira. Si vous êtes rempli de crainte et de doute, c'est ce qui sortira au moment de l'épreuve. Si on vous annonce un diagnostic d'une maladie, on dit, le médecin dit, voilà, vous n'avez plus que pour quelques semaines à vivre. Il dit, ah mon Dieu, oui, je vais mourir, c'est bien ce que je pensais, etc. Si vous étiez rempli de pensées comme ça, c'est ce qui va se passer. Si vous êtes rempli de la parole de Dieu, vous dites, bon, moi, je prends note, je prends acte de votre diagnostic, mais je vais m'en référer maintenant à la parole de Dieu et à ses promesses. Donc, c'est une décision qui nous appartient. Naturelle. Tout ce qui est naturel nous fait penser à la santé. Mais en fait, vous savez, dans la nature actuellement, il y a beaucoup de choses qui ne sont plus tellement bonnes pour notre santé. L'air que nous respirons n'est plus si pur. L'eau que nous voulons boire, il faut chercher pour en trouver de la bonne eau potable. Et donc, cette planète a quand même été polluée à tous égards, y compris par aussi spirituellement, par le péché. Et l'homme a essayé par la chimie de jouer à l'apprenti sorcier. On mange toutes sortes de choses qu'on ne sait pas très bien si c'est bon pour nous ou non. Donc moi, le naturel, je m'en méfie un petit peu. Je préfère le surnaturel de Dieu. Et je préfère que tout ce qui est de cette planète Terre, même si au départ ça avait été créé merveilleux par Dieu, une fois que maintenant le diable s'en est mêlé, que l'homme a été complice du diable et a pollué et gâché toutes les ressources de Dieu, je préfère maintenant m'en tenir à cette parole de l'Écriture qui dit « Tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière ». C'est dans Timothée. On a vraiment besoin de non pas de courir après des choses naturelles. Bien sûr, certaines choses naturelles, dans le sens alimentation ou plantes, peuvent nous faire du bien. Et c'est Dieu qui les avait placées à l'origine dans la nature pour ça, pour le bien de l'homme. Mais avant tout, nous avons besoin de voir que l'action de l'Esprit de Dieu pour notre bien est plus importante que notre raisonnement à courir après des choses, entre guillemets, naturelles. Vous êtes d'accord avec ça? Il est plus néfaste pour vous de manger du bio en étant rempli de crainte et en disant « je vais certainement attraper une maladie » que de manger de la mauvaise nourriture industrielle et de bénir votre repas. Tant pis si je choque quelqu'un, mais c'est parce que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ va par-dessus l'autre loi, qui est la loi du péché et de la mort. Donc il est mieux encore de manger sain, bien sûr, et de bénir Dieu. Mais si ce n'est pas possible, je crois, le plus important pour nous, c'est la bénédiction de Dieu. Sur nos aliments, sur notre vie, sur tout ce que vous voulez. Et on termine par le dernier point. c'est la relaxation. Alors la relaxation, je ne parle pas de certaines techniques qui vont faire je ne sais où. Nous avons besoin de nous détendre. N'est-ce pas vrai? On a besoin de se détendre, de savoir se reposer. Et là, on a le beau programme de Dieu. Le meilleur programme anti-stress qui soit, c'est la marche par la foi. Le repos, expérimenter le repos de la foi où Dieu dit, pousse-toi et laisse-moi faire. Tu vas voir ce que je vais faire. Cette exhortation de Moïse disait, l'Éternel combattra pour vous et vous taisez-vous. Regardez ce qu'il va faire maintenant. Ça ne veut pas dire je suis paresseux, je ne fais rien et Dieu va s'occuper de tout. Il fait sa part et moi je fais ma part. Mais ma part, elle n'est pas difficile. Ma part, elle est de me reposer en lui. Alors on va terminer par le verset de 1 Pierre qui résume beaucoup de choses que nous avons partagées. 1 Pierre 5, verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Vous êtes le sujet de toute l'attention de Dieu. C'est lui qui agit pour vous. Mais remarquez que, autant dans la Bible, des fois, on vous dit, il faut que vous fassiez ci, il faut que vous fassiez ça, agissez, etc. Là, c'est, il le fera pour vous. Quand vous avez suivi cette démarche, il le fera pour vous. Il va vous perfectionner. Il est précisé lui-même. Dans ce texte que nous avons lu à l'instant, nous avons vu deux fois lui-même. Il s'en occupe lui-même. Dites tout le monde, dit lui-même. Lui-même. Et vous pouvez dire à Dieu, toi-même. Toi-même, tu t'occupes de moi. Et je te remercie pour cela, Seigneur. Nous sommes heureux, Seigneur, d'avoir un Dieu si proche de nous, toutes les fois que nous t'invoquons. Quelle grâce, Seigneur, de ta part, de pouvoir réaliser que tes projets pour nous ne sont que bonté et bienveillance. Merci pour la faveur de Dieu. J'ai la faveur de Dieu. Je suis entouré de sa grâce. Le bonheur et la grâce m'accompagnent. Il faut que vous le fassiez ça. Vous élevez votre voix, vous dites ces choses. Pas seulement maintenant ou parce que je vous le demande, mais vous le dites le matin que vous vous levez. C'est la journée que le Seigneur a faite. Elle sera pour moi un sujet de joie et d'allégresse. J'ai la faveur de Dieu. Quand vous allez quelque part où c'est difficile, vous rencontrez une situation peut-être tendue, dites, Seigneur, j'ai ta faveur. Tu me fais trouver la faveur auprès de ces personnes. Ou pour d'autres choses, vous pouvez être en souci. Ça peut être un souci que vous avez. Là, maintenant, vous savez quoi faire. Déchargez-vous de tous vos soucis. Ce n'est pas être irresponsable. Au contraire, ça veut dire que c'est intelligent. Vous confiez ce souci à quelqu'un qui est plus capable que vous-même. Il est votre coach. Amen. Amen.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.